Bon, sur les évaluations, sur le. Là, moi, je ne les ai pas encore consultées. Hein. On est face, nous, à un champ immense hein, de domaines d'inégalité. Donc, c'est difficile pour nous d'être au courant de toutes les dernières études. Quand je dis qu'on ne voit pas d'augmentation des inégalités à l'intérieur de l'école, il y avait un chiffre quand même hein, qui nous intriguait un peu sur l'accès à l'enseignement supérieur dans les dernières générations qu'on voit aussi. Peut-être qu'on commence aussi à le voir en sixième, peut-être qu'il y a des répercussions qu'on ne voit pas, qu'on n'est pas capable de déceler, et qu'il y a des choses qui se passent et qui devront être confirmées un peu plus tard dans le temps long. Nous, on s'intéresse vraiment aux variations du temps long et pas aux trucs de court terme. C'est pareil sur les revenus, là, il n'y a pas longtemps, vous avez entendu en 2021, sur les revenus sur 2021, les inégalités augmentent. Bah ouais, mais sauf qu'elles ont baissé en 2020, elles ont fait comme ça, enfin, on peut faire dire ce qu'on veut après, mais donc faut faire gaffe à ça. Sur la deuxième. Sur la deuxième question, alors d'abord, ben, c'est chouette que vous ayez fait. J'espère que ça s'est bien passé. Moi, c'est vraiment un programme. Aujourd'hui, au sein de l'Observatoire des inégalités, il y a presque la moitié de l'équipe qui travaille auprès des jeunes et de ces ateliers. Et oui, notre rôle, il est sensible, quoi. Mais d'ailleurs, en fait, ce n'est pas juste pour les jeunes, hein, ce discours-là. Il est valable pour la société dans son ensemble. Hein. À force de rabâcher aux gens qu'il y a 10, comme le fait la gauche tout le temps, il y a 10 millions de pauvres, il y a 10 millions de chômeurs, que des sans-abri, etc. Ben, on dit aux gens, ben, fermez-la, quoi. Parce que sinon, on va prendre votre boulot à votre place, quoi. Hein. Si on n'entend que ça, je suis caissière et j'entends que ça, de toute façon, il y a des millions de chômeurs, ben, ça me fout la trouille, quoi. Je ne vais pas revendiquer. Donc la question qui n'est pas simple, c'est comment d'un côté on manipule cette question, comment on sensibilise et les jeunes, mais pas seulement à la question des inégalités, et puis de l'autre côté, comment on fait attention avec cette forme de sensibilisation, à pas dire, bah, de toute façon, tout est foutu, ça sert à rien, restez où vous êtes. Enfin, voilà, nous, si on pensait que, comme sur un certain discours de gauche, de toute façon, tout va toujours de plus en plus mal, ben, on serait pas là un samedi matin pour parler des inégalités, quoi, ça servira à rien. Si on pense que tout va de plus en plus mal tout le temps, c'est la même chose que pour le climat. Hein. Si vous pensez que tout est foutu, bah, rentrez chez vous, regardez la télé et puis et passez des bonnes vacances. Mais si on pense que c'est foutu, ça sert à rien de se décarcasser et de dépenser autant d'énergie. Sur le combat des inégalités, ce que vous avez dit, la question sociale et le genre et autres. Alors oui, bah nous, on pense tout à fait ça. Il faut être prudent. On porte, l'Observatoire, depuis sa naissance, porte la question sociale comme une forme d'étendard. C'est dommage que je doive partir, mais on pourrait débattre avec Soukri Benayet sur, par exemple, la question de la discrimination et des inégalités sociales, les relations entre les deux. Et la question du genre, et la question de l'âge, et la question du handicap. Alors oui, nous, on porte cette question sociale. Par exemple, dans le domaine syndical, la question de l'égalité professionnelle, mais je ne vous mens pas, hein, très souvent, l'égalité professionnelle, ce n'est que l'égalité de genre. Et même dans les universités, là où il y a des trucs sur, je sais pas comment ça s'appelle, chargé de mission égalité, mais c'est que le genre, quoi. Mais attendez, l'égalité, pour moi, c'est pas juste le genre. Donc, faut être prudent par rapport à ça. Après, il faut pas non plus revenir aux années 70 ou 80 où celui qui était noir, une femme noire, ben, elle était surtout fille d'ouvrière ou fille de cadre, mais sa couleur de peau, bon, c'est un peu transparent. Et par rapport à notre travail, je pense que, si on parlait tout à l'heure avec Choukri Belel, il pourrait dire, nous, notre discours sur ben, les enfants d'immigrés, toutes choses égales par ailleurs, réussissent plutôt mieux à l'école que les autres, ben, lui, il pourrait très bien me répondre, toutes choses égales par ailleurs, c'est une vue de l'esprit, quoi. Ça n'existe pas. C'est en partie pour ça qu'on a produit ce rapport sur les discriminations, en vente sur inégalité.fr, je viens de le dire, mais pour la modique somme de 12 euros. Mais parce qu'il ne faut quand même pas oublier, quoi. C'est-à-dire, il faut quand même faire un peu attention. Et aujourd'hui, le retour de certains discours xénophobes, sexistes aussi, hein, homophobes, etc., nous replace aussi sur ces questions-là. Et donc, nous, on a voulu dire, voilà l'état des lieux. Donc, il y a bien des rapports de force entre formes d'inégalité dans lesquelles nous, on est en train... Moi, j'ai fait tout un bouquin qui s'appelle « Encore plus », où je développe ça, quoi, sur la question sociale, mais sans oublier les autres formes d'inégalité et en essayant de regarder, domaine par domaine, quel est le facteur qui va avoir le plus d'impact. Mais c'est sûr que à l'école, la question de l'origine sociale, c'est le dossier majeur. Il y aurait des trucs à dire sur la question du genre, pourquoi il y a une fausse meilleure réussite des filles que des garçons. On nous dit qu'elles réussissent mieux à l'école, elles ont des parcours plus longs, mais en réalité elles ont des moins bons diplômes sur le marché du travail. Qu'est-ce qui se passe chez les filles et notamment chez les jeunes filles? Il y aurait un truc, à mon avis, pas inintéressant à discuter. Mais en tout cas, voilà, pour nous, voilà comment on se situe dans ce schéma.
Jean-Paul Tauvel, le responsable du site LOZP. Vous avez traité l'impact des inégalités sur le social, sur la cohésion sociale, sur l'évolution politique, et quel serait l'impact des inégalités sur l'économie du pays?
Difficile. On est dans des systèmes marchands, capitalistes, disons ces gros mots, qui marchent parce qu'il y a des formes d'inégalité. C'est l'aiguillon de la concurrence, d'Adam Smith, etc. Et voilà. On est sur des systèmes qui sont quasiment soviétisés aujourd'hui. La moitié de la richesse nationale est prélevée par la collectivité pour le redistribuer. Donc les inégalités passent de 1 à 19 à 1 à 3 une fois qu'on a ratiboisé, et sans compter les effets de l'école, de la redistribution, etc. Donc on est à la fois sur un système qui marche parce qu'il est privé où il y a des inégalités de revenus, et qui à la fois sont largement tempérés par un modèle social français. Je ne l'ai pas dit, mais j'aurais pu le dire en introduction, mais la France est un pays du monde où le taux de pauvreté est le plus faible au monde. Dans les grands pays, hein, dans tous les grands pays d'Europe, c'est en France que le taux de pauvreté est le plus faible. Pourquoi? Parce qu'on dépense un pognon de dingue, hein, ça nous coûte un pognon de dingue, comme dirait le président, qui fait que voilà, on amortit quand même beaucoup ce choc-là. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple un système scolaire sans inégalité scolaire, sans distribution de notes, par exemple, où on n'aurait pas besoin de distribuer aucune note jamais, et d'évaluation pour faire marcher les choses? On entre après dans un truc un peu métaphysique où moi c'est un monde que j'aimerais bien, mais que dans la réalité, c'est peut-être une forme d'utopie qu'il faudrait arriver à se donner. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que même si on redistribue beaucoup la richesse en France, il y a encore un chemin à faire qui est important. La preuve, hein, on est un des pays aussi où les riches sont parmi les plus riches, où les patrons sont parmi les mieux payés, où les riches sont très riches, alors que tout ça, c'est mesuré après redistribution.